On a parlé du langage de la nature, on a parlé du langage de Dieu par les prodiges. Eh bien, les prodiges, malgré tout ce qu'on fait pour ne pas les oublier et garder son identité, eh bien, les prodiges, on les oublie. Et les Hébreux, quand ils auront marché un tout petit peu dans le désert, ils vont commencer à râler, ils vont oublier qu'ils ont été libérés d'Égypte, et ils vont râler parce qu'ils trouvent pas d'eau. Et alors Dieu n'abandonne pas son peuple, la fidélité de Dieu à son alliance, tout simplement. Il leur parle un langage qu'ils sont capables de comprendre. Et tenez, d'abord un conditionnement géopolitique, là c'est très curieux. Tenez, ça vous paraît très simple, mais vous allez voir que c'est dans la Bible, c'est pas, ça vient pas de moi. L'Égypte, le pays d'où l'on sort, c'est un pays où l'eau vient d'en bas. La terre promise vers laquelle on va, c'est un pays où l'eau vient d'en haut, il pleut. Et le désert, entre les deux, c'est un pays où il n'y a pas d'eau du tout, ou parcimonieusement comme là. Vous sentez là, ça va être très simple, et ça conditionne le comportement humain, ça. Enfin, vous avez peut-être déjà été en Égypte, et en Égypte, alors il y a les crues du Nil, je crois qu'elles ont été un petit peu détraquées par le barrage d'Assouan, mais enfin, moi j'y étais dans les années 53, là. Alors le Nil monte, il dépose ses sédiments, le paysan, le fella, fait des norias, ben, il fait monter l'eau dans les godets, et puis l'eau s'écoule dans des canaux à la pente bien calculée, et jusque là où l'eau va, c'est une fertilité paradisiaque, et puis ensuite c'est le désert, enfin, c'est coupé au couteau. Alors, le résultat, c'est qu'il a toujours le nez par terre, et puis il n'y a pas d'imprévu. En terre promise, alors, il vit dans la dimension horizontale. En terre promise, l'homme travaille, fait l'agriculture, dans la montagne fait pousser les arbres fruitiers, enfin il cultive et fait pousser la vigne, le figuier, les arbres fruitiers, et puis en même temps l'eau vient du ciel principalement, et elle vient ou elle vient pas. Et dans l'Ancien Testament, on n'est pas encore comme dans le Nouveau Testament où Dieu, Jésus parle de Dieu qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les méchants. On pense que la pluie vient pas selon qu'on est ou non fidèle à l'alliance. Alors on reste dans une attitude d'interrogation. Autrement dit, on vit dans la dimension horizontale, pas du travail, on travaille de ses mains, et puis en même temps, on garde une dépendance vis-à-vis de Dieu qui donne la pluie qui féconde la terre. Et alors, entre l'Égypte où on vit dans l'horizontale et la terre promise où on est appelé à vivre dans les deux dimensions harmonieusement conjuguées, vous avez le désert où on ne vit plus que dans le vertical. Et toute la vie est comme élevée dans une dimension miraculeuse. Enfin, il n'y a pas d'eau, Dieu fait jaillir l'eau du rocher. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de nourriture, Dieu fait pleuvoir le pain. Enfin, c'est, on dira ça en prenant son temps pour lire ce texte extraordinaire de la manne. Et puis, on est mis dans un état de dépendance, de pauvreté, et c'est comme ça qu'on connaît Dieu. On connaît Dieu dans le langage qui parle dans la nature, on connaît Dieu par les prodiges qu'il fait dans l'histoire, on connaît Dieu, j'allais dire au ras des baquettes, si cette comparaison n'est pas au désert, dans la vie quotidienne, au fur et à mesure qu'on expérimente sa providence. Vous voyez qu'il est là pour subvenir à nos besoins. Alors, lisons le texte. Mais d'abord, ce texte, c'est pas moi qui l'invente, cette histoire-là. C'est dans le Deutéronome, au chapitre 11. Le pays où tu entres pour en prendre possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sorti, où après avoir semé, il fallait arroser avec le pied, comme on arrose un jardin potager. Ça fait allusion au Noria des Fellas. Le pays où vous allez passer pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées arrosées de la pluie du ciel. Et dans ce pays, le Seigneur ton Dieu prend soin sur lui, les yeux du Seigneur ton Dieu restent toujours fixés depuis le début de l'année jusqu'à la fin. Alors si vous obéissez à l'Alliance, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie d'automne, la pluie de printemps. Alors l'eau, vous voyez, on va faire une espèce de recyclage dans le vertical. Et 40 ans, c'est pas trop. Nous, on va le faire en quelques heures, mais on a besoin d'être recyclé dans le vertical pour pouvoir vivre normalement, c'est-à-dire dans les deux dimensions harmonieusement conjuguées, de l'horizontal et du vertical, et dans la vie ordinaire. Vous comprenez ça? Et quand on perd la dimension verticale de signification, on fait des briques. Alors ça, c'est très grave. On est victime du divertissement. Il faut retourner au désert. Et alors, au désert, la voix de Dieu retentit. Et puis on se remet à connaître Dieu dans un état de pauvreté, de dépendance. Et le carême qu'on vit actuellement nous invite à le faire. Alors lisons les textes. Bon, il y a le cantique de Moïse, vous le chantez par cœur. Tiens, tu pourras mettre ce que tu as de meilleur là, comme mélodie.
Chantez au Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier.
Alors, maintenant on est dans le désert. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux, Yam Souf. Ils se dirigèrent vers le désert de Chour et marchèrent 3 jours dans le désert, sans trouver d'eau. Mais quand ils arrivèrent à Mara, ils ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère. C'est pourquoi on l'appela Mara, le peuple murmura. Le traducteur ici, il est génial. Il a réussi à donner des assonances encore mieux qu'en hébreu. Mara, ça veut dire amer. Oui, Noémie, quand elle rentre du pays de Moab, elle dit aux gens de Bethléem, m'appelez plus Noémie, l'agréable, appelez-moi Mara. parce que Dieu m'a rendu la vie amère. Le roi Ézéchias, dans l'Isaïe, là, est malade. Le prophète vient le visiter pour le consoler, il vit dans la pluie pour longtemps. Alors il dit « Mar, li, mar », ça veut dire « j'en ai marre, au fond, Mara ». Je relis le texte. « Quand ils arrivèrent à Mara, ils ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère. C'est pourquoi on l'appelait Mara, le peuple murmura. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, ne soyez pas comme à Mara et à Meriva. » Comme toi, c'est normal qu'un peuple râle dans le désert. J'entends toujours, je ne sais pas pourquoi il râle pas. Normalement, un groupe normal devrait râler dans le désert. Moïse dit, qu'est-ce qu'on va boire? Alors Moïse cria vers Dieu, Dieu lui montrant un morceau de bois, Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'est là qu'il leur fixa un statut et un droit. Cham, sam, l'eau, roc. Quand il y a des onomatopées comme ça qui se suivent, on sent qu'il y a des choses qui ont été transmises oralement pendant des générations et qui ont été enchâssées ensuite dans des récits.
Si, c'est peut-être parce que c'est plus facile à s'en souvenir. Par
ah oui, certains, ça jouait énormément. Alors c'est là qu'il les mit à l'épreuve. Puis il dit, si tu écoutes, Shema Israël, la première chose, on dirait que c'est un commandement qui était donné avant tous les autres. Écoute, la voix du Seigneur ton Dieu et fais ce qui est droit à ses yeux. Si tu prêtes l'oreille, vous savez ce que c'est que le contraire de prêter l'oreille? C'était démontré par un savant père de l'école biblique, le père Courroyer, il a fait un article là-dessus. C'est avoir la nuque raide. Tendre l'oreille et avoir la nuque raide. Vous sentez ce langage concret. Le peuple sera censé s'accuser d'avoir la nuque raide, de ne pas savoir écouter. Alors l'oreille, c'est extrêmement important. Tenez un petit paragraphe là-dessus. Les rabbins disent que, on trouve ça chez Aristote aussi, je crois. Je me rappelle le De Natura Rerum, là, il y a des choses que j'ai retenues là. Qu'on a deux oreilles et une seule bouche. On tirait pas mal de conclusions. On devrait écouter beaucoup plus qu'on ne parle. Mais alors, la bouche, on peut la fermer deux fois, avec les dents et avec les lèvres, et les oreilles, on ne peut pas les fermer. Alors, on devrait tirer beaucoup de conclusions à ce niveau-là. L'importance de l'oreille. Et chez le prophète, ce qui est important, c'est pas tellement la bouche, c'est l'oreille. Écoutez le prophète Isaïe, notre saint patron. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je n'ai pas résisté, je ne me suis pas dérobé. Et alors l'oreille, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, dit le psaume 40. Tu m'as ouvert l'oreille, tu m'as creusé l'oreille. Et une chose très curieuse, les Septante et l'épître aux Hébreux, là où il y a marqué l'Hébreu, tu m'as ouvert l'oreille, osnaim karitali, tu m'as creusé une oreille, ils disent tu m'as formé un corps. Comment est-ce qu'on est passé de l'oreille au corps? Une fois j'avais des médecins là et ils m'ont dit mais c'est, ça va très loin cette histoire-là. Il paraît que le premier organe sensible qui vient à éclosion dans l'embryon, c'est l'oreille. Il y a un docteur Tomatis là, qui a étudié ça. Et il y en a d'autres qui disent que l'oreille a la forme de l'embryon, etc.
Avec la thérapie, oui, on trouve tous les points de l'oreille.
En tout cas, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est que la parole de Dieu qui vous rentre par l'oreille descend au fond de vos entrailles, ta loi au fond de mes entrailles, et puis elle entraîne comme une espèce de rebondissement dans l'action de grâce de tout l'être. Et alors, l'incarnation dans cette perspective-là, oui, c'est la parole, au fond, demande à être appropriée jusqu'à l'incarnation. Au fond.
Et me dit tu m'as creusé une oreille,
oui.
alors j'ai dit voici je viens.
Oui, alors ça c'est les Septante qui traduisent comme ça, et l'épître aux Hébreux. Alors tu n'as voulu ni holocauste, c'est pas le verbe incarné dit dans le monde, en entrant dans le monde, le Christ a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, tu m'as façonné un corps. Là où il y a tu m'as creusé une oreille et tu m'as façonné un corps. Tu n'as voulu ni holocauste ni le sacrifice pour le péché, alors j'ai dit voici je viens, c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre pour faire ô Dieu ta volonté. Si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, Shema Israël, si tu prêtes, il y a de plus en plus de chrétiens qui chantent le Shema Israël, ils ont compris ça. Et puis, on devrait écouter plus qu'on ne parle.
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema
plus qu'on ne parle. Le temps qu'on passe à discuter des problèmes, si vous lisez le document qui est au début de la liturgie des heures, on dit que quel que soit le sujet pour lequel on se réunit quand on est chrétien, on devrait commencer par l'écoute de la parole et la prière. Si tu prêtes l'oreille, tous les maux que j'ai infligés à l'Égypte, je ne te les infligerai pas, car je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Ici, le mot, c'est Rapha. Rophé, c'est le médecin. Vous ne connaissez pas un livre dans la Bible ? Pas dans la Bible hébraïque, mais dans notre Bible là.
Le livre
de Tobie. Ou alors Dieu se manifeste sous les apparences d'un ange qui s'appelle
Raphaël.
Enfin, Dieu soigne. Ils arrivèrent à Élim où se trouvent 12 sources et 70 palmiers, ils y campèrent au bord de l'eau. Et alors ici, ça évoque tout de suite une des images bibliques qui revient le plus souvent, c'est Dieu sous les apparences d'un berger. Vous connaissez tous le psaume 23, le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'eau, d'herbe fraîche, il me parque, vers les eaux du repos, il me mène, il y refait mon âme. Et on fait l'expérience de la providence d'un Dieu qui s'occupe, comme le bon pasteur, des brebis qu'il connaît chacune par son nom propre. Bon, on va en rester là pour la petite source, là, qu'on voit bien. Et maintenant, vous voyez, normalement, on partirait par là, puis de point d'ombre, on dirait la manne, l'eau qui sort du rocher, etc. Amalek. Alors, on va reprendre la Jeep, et puis on va aller chercher une piste carrossable pour la Jeep, parce que là, on ne peut y aller qu'à pied. Et puis, on va rejoindre, et on lira au passage ces textes qu'on ne peut pas lire dans le canyon que vous voyez là. On les lira en trouvant des points d'ombre sur la piste carrossable pour la Jeep qui nous mène à l'endroit. Droit merveilleux là, on lit les textes relatifs à l'alliance au Sinaï, dans les éclairs et dans le tonnerre.